vieux pas.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France et merci d'être avec nous sur Radio Campus 106.6 FM et DAB+. Et comme tous les dimanches de 18h à 19h, nous allons un peu explorer ensemble l'actualité geek et ludique. Et aujourd'hui, pour animer cette émission, nous sommes trois. Il y a moi-même François, je suis accompagné de Reynald.
Bonjour à tous.
Et de Dominique.
Salut à tous.
Au sommaire de cette émission, nous avons préparé, hein, comme d'habitude, un peu d'agenda. On parlera de Space Invaders. Il y aura également de la K-pop. Eh oui, je lâche déjà le sujet musical directement. Et d'autres news qui nous ont marqué cette semaine. Et je vous propose tout de suite de commencer. C'est vrai qu'on aime bien dégoter quelques petites bonnes affaires, notamment dans le jeu vidéo. Et c'est ce on en parle assez souvent chaque semaine, c'est ce qu'on appelle les bundles, un regroupement de plusieurs jeux vidéo pour une somme modique, on peut dire, en général.
Oui, d'habitude, c'est des bons prix, quoi. Mais alors là, le bundle qui est là, c'est record du monde, quoi.
Alors, ça fait un petit moment qu'il est disponible, d'ailleurs, celui-ci.
Ça fait une quinzaine de jours, à peu près 2 semaines.
Alors, même si l'offre s'est terminée il y a à peine une semaine, c'est quand même important de parler de ce bundle.
Et en fait, c'est à l'occasion ça s'appelle le Bundle for Racial Justice and Equality, ce qui veut tout dire. C'est effectivement suite au mouvement Black Lives Matter. Il y a plein de créateurs de jeux, de contenu, de jeux vidéo. Il y a aussi du jeu de rôle, des graphistes, etc., qui ont donné des jeux, pratiquement donné, puisque on pouvait retrouver dans la première version du bundle, je crois que c'était combien, 750 leurs jeux. Il y avait des jeux vidéo, des créations, en gros, œuvres, enfin des objets. 750 jeux, en gros, pour 5$. La mise à prix était 5$. Alors bien sûr, comme pratiquement tous les bundles, c'est donc pour une œuvre, là, c'est pour le Racial Justice and Equality. On peut donner la somme qu'on veut, c'est 5$ minimum, mais on peut donner l'argent, on peut donner 1000, je ne suis pas allé voir les contributeurs. Et une semaine après, il y a d'autres gens qui sont venus se rajouter au bundle, ce qui fait qu'actuellement, au moment où on enregistre cette émission, le bundle contient 1741 jeux de rôle. Il y a des livres, il y a des artbooks, il y a des éléments pour créer ses propres jeux, il y a de tout, enfin c'est affolant. Toujours pour 5$, je l'avoue. Moi je l'avais acheté la première semaine, donc il y avait encore que 758 dedans, et mon bundle s'est mis à jour automatiquement, donc j'ai dans ma bibliothèque, si je veux, 1750 jeux à tester. Bon courage.
Ouais, il va falloir du temps. Je pense qu'il y en a qui iront plus vite à tester que d'autres. Alors, tu parlais tout à l'heure, c'est effectivement, il était possible de mettre la somme qu'on nous souhaitait. Et en moyenne, les gens investissent 10€ dans ce bundle, enfin 10$. Et la contribution maximum s'élève à 5000.
5000$, oui, pas mal. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui n'a même pas d'ordinateur ou de console ou quoi que ce soit, qui a juste voulu donner de l'argent. Mais c'est assez impressionnant. En fait, le total est évalué à 5700. La valeur, peut-être si tu voulais acheter tous les éléments un par un chez leur propriétaire, ça, c'est à peu près 6000$. Bon petit pourcentage, une belle petite économie, quoi. Il y a même certains objets qui sont des collections de jeux. Il y a même, dans les parties jeux de rôle, j'ai vu qu'il y avait un pack qui ne représente qu'un des 1700 objets, et ce pack lui-même est composé d'une vingtaine de jeux de rôle. C'est des jeux de rôle indépendants qui ont été publiés sur les 4-5 dernières années. Donc il y en a des siècles de jeux et de tests. Il y a même des musiques de jeux, il y a des soundtracks, des musiques de jeux vidéo, donc il y a de tout. On peut fouiller pendant des heures et des heures.
Et vous avez de fortes chances de ne pas connaître le jeu. C'est ça qui est génial. Alors, actuellement, on ne parle pas ici vraiment de palier à atteindre, hein, puisque c'est pour une association, mais actuellement, ils ont récupéré plus de 8 millions de dollars. Alors, est-ce qu'il y a une partie qui est reversée au niveau des
je pense que là,
des développeurs de jeux vidéo?
Ont dit vous donnez ce que vous voulez, le jeu est offert, quoi. C'est vraiment impressionnant. C'est un petit peu comme si les gens qui quand t'as un concert au hasard les enfoirés, les artistes, les gens qui viennent sur scène ne prennent pas de cachet. Tu vois, ils viennent offrir peut-être même qu'ils écrivent une chanson.
Tu veux dire que même s'ils ont mal à la tête,
C'est ça.
Rien du tout, même pas
se cacher là. Et voilà, ils donnent tous les droits de leur chanson. Et des fois où ils composent une chanson pour une œuvre, etc., et ils prennent pas de droits dessus, quoi.
C'est vraiment généreux. je trouve. Alors, ici, c'est vrai que lorsque vous allez acheter un jeu et qu'il est disponible par exemple sur Steam, vous n'aurez pas de clé d'activation, mais directement un lien sur lequel vous pouvez télécharger l'application et l'installer directement.
De toute façon, c'est sur le site itch.io. Il y a près de 60 pages à parcourir pour retrouver. C'est impressionnant. Et vous pouvez le télécharger quand vous voulez sur votre ordinateur. Enfin, il n'y a pas de limite, quoi. Il n'y a pas de DRM ni rien. C'est pratique.
En plus, là, je regardais en même temps le lien qui avait été donné pour acheter le bundle et c'est présenté par vignette de 5 jeux et déjà rien que la troisième vignette, c'est un logiciel qui te donne plus de 20 000 assets pour faire tes jeux vidéo et c'est un parmi les 1700 possibles que tu peux retrouver dans le bundle, donc c'est vraiment intéressant.
Bien sûr, la plupart, c'est, alors comme c'est un bundle créé par des Américains, la plupart des, enfin, ouais, des créateurs, tout est pratiquement en anglais, quoi. Il y a peut-être certains jeux qu'on peut mettre en français dans les réglages, mais bon, je pense que la plupart, il faut parler un petit peu anglais pour débrouiller.
Alors, on va quitter l'univers un peu du jeu vidéo pour le moment. Alors que c'est vrai qu'il est difficile, et on le sait, hein, notamment aujourd'hui, puisque c'est la fête de la musique, pour les artistes de jouer live, mais il y a quand même des possibilités, et c'est un peu du téléconcert, puisque de nombreux artistes ont décidé d'être filmés sur des scènes et ensuite diffuser ça en live stream. Et on a beaucoup d'artistes qui font ça, mais on a également maintenant des festivals qui se lancent dans l'aventure. Et l'un des plus grands festivals hein, qu'on peut connaître, c'est notamment The Hellfest.
On en avait parlé quand on avait annoncé l'annulation il y a quelques mois, effectivement. Ça devait se dérouler en ce moment, au mois de juin, mi-juin. Et pour l'occasion, Arte, qui déjà chaque année fait des concerts, des émissions en direct du Hellfest, avec des rediffusions de concerts en live pratiquement tous les soirs, avec des interviews, des reportages, c'est vraiment très sympa. D'ailleurs, sur le site d'Arte, dans la partie Arte Concert, on peut retrouver les vidéos des anciennes années, toutes les parties Hellfest et compagnie, avec des concerts complets, super intéressants.
Ouais, pas que du Hellfest, hein, y a aussi pas mal de concerts métal qui sont là sur Arte.
Et pour cette première journée de Hellfest, c'est trois groupes nantais qui vont se lancer dans l'aventure. Tout cela va se passer dans le bar VIP du Hellfest. Alors tout ça se passe à Clisson. Alors la première journée, donc on l'a dit, hein, c'est le 18 juin, donc c'était jeudi, il y en aura d'autres à venir. Alors dans les groupes, on a cité Ultra Vomit, il y a Stinky et Regarde les Hommes Tomber. Je vous propose d'écouter Regarde les Hommes Tomber pour se faire un petit avis, tiens. Et faire un peu de promo pour ces groupes français qui jouent maintenant
en live. Ils ont fait une reprise de ce groupe, qui avait, ce groupe de Nana qui avait chanté It's Raining Men, ça n'a rien à voir. Ah. Ça, c'est un cover band français.
Intéressant. On peut leur soumettre l'idée, écoute. Allez, je vous propose d'écouter avec un album qui est sorti cette année, qui s'appelle Ascension. Et au hasard, on va prendre la chanson numéro 6 qui s'appelle La Tentation.
Thank you.
Voilà, c'était Regarde les hommes tomber sur leur nouvel album Ascension. Et vous pourrez donc les retrouver avec le service VOD de Arte, puisque le concert du Hellfest est disponible jusqu'en décembre. Donc voilà, vous avez le temps de le regarder, le re-regarder.
C'est sur arte.tv et il y a une partie Arte concert. Vous allez y passer des heures et des heures.
On parlera tout à l'heure d'autres groupes qui jouent comme ça en live, mais avec personne autour. Enfin, plus de gens connectés que dans la salle. On va s'intéresser maintenant un peu à du rétro gaming, puisque nous allons fêter un peu l'anniversaire qu'on a l'impression de fêter chaque année, mais bon, on va le refaire cette année. C'est l'anniversaire de Space Invaders.
Ah oui, la dernière fois, on a fait l'anniversaire de quoi ? De Pac-Man. Donc, de toute façon, ils vont tous y passer. Hein. Tous ces vieux jeux.
Est-ce qu'on a des chansons de William Lemergy pour chanter Space Invaders ? Non. Hein.
Pas sûr.
Je vais regarder. Si j'en trouve une, je te l'envoie.
Qu'il y a eu de séries de dessins animés sur Space Invaders. Bon, des films, à la limite, dès qu'il y a des films avec des vaisseaux qui se tirent dessus, tu peux dire que c'est une... Bon. Je pense que le jeu vidéo est plus inspiré des films que les films du jeu vidéo.
Alors, pour rappeler, hein, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu mythique, vous avez un petit vaisseau hein, qui se déplace à l'horizontale et qui tire sur des petits aliens qui arrivent par le dessus. Alors, à savoir que c'est, pour moi en tout cas, c'est l'un des premiers jeux vidéo que je me souviens avoir testé. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était assez répandu sur toutes les consoles.
Oh, c'était, moi, les premières fois que je l'ai vu, c'était dans des cafés. Mais c'était...
En borne arcade.
Effectivement, c'était sur borne arcade. Ce que j'aimais bien, c'est que c'était super dur quand même.
Au début, ça allait, mais après, ça allait de plus en plus vite. T'avais les vaisseaux bases au-dessus qui passaient. Enfin, t'avais une difficulté croissante. Tu prenais ton temps.
C'était pas le premier jeu vidéo sur le principe de l'espace, hein, parce que y avait eu, par exemple, Space War qui date des années 60, où là, on dirigeait un vaisseau qui volait sur le côté, effectivement, et qu'il fallait qu'il tire sur des ennemis qui tombaient, ou qui c'était presque le premier shoot'em up, lui, peut-être. Mais c'est pareil, des clones de Space Invaders, il y en a eu des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers, quoi.
Alors, le jeu avait été designé et créé par Tomohiro Nishikado.
Et c'est pas pour rien que c'est un jeu japonais, parce qu'il y a des gens qui voient toujours des messages dans des messages politiques ou philosophiques dans les jeux vidéo. Par exemple, Pac-Man, dont on avait parlé la dernière fois, on y voyait des messages sur la drogue, parce que Pac-Man, c'est comme un petit bonhomme qui prend des boules jaunes, puis quand il prend une boule un petit peu, des boules blanches, et quand il prend une boule jaune un peu plus grosse, il se transforme et il est capable de poursuivre ses ennemis. Alors, ça fait des références à la drogue, au dopage, etc. Et là, on y voyait, certains y ont vu, qu'est-ce que ça symbolisait, en fait, ces vaisseaux qui attaquent et qui essayent de t'envahir et que tu es obligé de défendre. D'un point de vue des Japonais, même 20 ans, 15 ans, 20 ans après la guerre, c'est un petit peu l'invasion culturelle des États-Unis par le Japon, ou du Japon par les États-Unis, tu avais les deux côtés, quoi. Donc il y a toujours un message caché derrière le jeu vidéo, c'est jamais aussi simple.
Alors, en plus de délivrer un message caché, ça a délivré aussi une mode, puisque de nombreux gens se sont attachés à ce style un peu pixelisé de Space Invaders et des autres jeux de l'époque.
Ça revient de plus en plus, effectivement, oui.
Et maintenant, on peut dire qu'il y a une sorte d'invasion réelle de ces Space Invaders dans les villes. Et on peut voir ça notamment pas loin de chez nous, hein, puisqu'à Lille, on a pu découvrir...
C'est du pixel art, on appelle ça des... c'est des Space Invaders, c'est le nom qu'on leur donne. Et en fait, c'est un artiste un artiste de rue, on peut dire ça, hollandais, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Invader, et qui a décidé, au lieu de taguer classiquement les murs des rues ou des métros, de faire des petits dessins en pixel art, avec des petits cubes. Il s'est amusé, il allait un peu plus loin, il a fait des œuvres complètes, il a fait des portraits, etc. Il a fait des petits Space Invaders, des petits personnages colorés, avec des formes différentes à chaque fois, qu'il a cachés dans plein de villes différentes à travers le monde. Mais il y en a des milliers maintenant. Il a aussi créé une application qui permet de retrouver et de collectionner ces petits Flash Invaders. L'application s'appelle, elle est disponible sur Android et sur iPhone, elle s'appelle Flash Invaders. Et ça fait quelques années que j'ai découvert ça, moi. Et maintenant, quand je vais dans une nouvelle ville, enfin, j'ai l'application sur mon téléphone, quand je me balade dans les rues, je fais toujours attention. Les Space Invaders, les Flash Invaders, on va dire, sont toujours cachés dans les au coin des rues, et des fois en hauteur, des fois c'est tout en bas, ils peuvent être en bas d'un immeuble ou d'une fontaine ou d'un monument, et il faut les retrouver. Et avec l'application, vous pouvez prendre en photo le Flash Invaders, il va être reconnu et il va être enregistré à votre collection. Alors je ne sais plus combien j'ai pas fait beaucoup de villes non plus, j'en ai trouvé pas mal à Paris, j'en ai trouvé à Nantes, à Lille, je pense que je les ai tous, je crois qu'il m'en manque un.
Actuellement sur le site de la personne, tu as que par exemple pour Lille, il y en est à sa deuxième vague d'invasion et il en a 6 à trouver sur Lille.
Donc j'en ai 5. Il y en a un que j'ai pas trouvé, mais peut-être que je l'ai pas trouvé parce qu'il y a quelqu'un qui s'est amusé à l'enlever. Parce que forcément, il y a de plus en plus. Il y a des gens qui ont entendu parler de ce petit phénomène, qui sont amusés à aller chercher. Il y a même des gens qui font des faux Flash Invaders, enfin qui s'amusent à faire leur propre truc, leurs propres petits autocollants, enfin c'est des trucs en céramique, et à les coller un peu partout. Et donc il m'est déjà arrivé de flasher des Flash Invaders, et que ça marche pas, que l'application ne le reconnaisse pas parce que c'est un fake. Mais c'est pas grave, c'est une façon un petit peu originale de visiter une ville, quoi. Tu regardes pas, si tu vois des gens qui se promènent, qui ont les yeux en l'air, c'est que, avec leur téléphone, ça peut être quelqu'un qui est en train de chercher un Flash Invader. Et on se partage les bons plans. Alors, il y a des cartes. Normalement, c'est pas bien de tricher, d'aller chercher sur Internet s'il y a des cartes d'une ville. Mais il y a des gens qui font ça. Quand tu vas dans une nouvelle ville, pour tes vacances, tu cherches Flash Invaders, le nom de la ville, et il y a des gens qui ont conçu des cartes où ils te donnent des indices. Bah, c'est un petit peu du spoil, mais ça, c'est assez secret, quoi.
C'est vrai qu'il aurait pu en faire une sorte de Pokémon Go. Alors là, dans l'application, on a déjà des high scores, donc plus vous en trouvez, plus les autres voir que vous êtes à la recherche et que il y a peut-être une compétition qui se lance, mais c'est vrai qu'il pourrait faire une sorte de jeu de piste en plus de les découvrir. Alors peut-être que ça casserait le fait de chercher dans toute la ville pendant 5 jours. Donc si vous êtes vous aimez bien vous balader, que vous voulez vous lancer à la recherche de ces mosaïques urbaines à l'effigie des Space Invaders, voilà, l'application s'appelle Flash Invaders, est disponible en tout cas sur Android.
Sur Android et iPhone aussi. Oui.
Je vous propose de coller au thème et d'écouter la chanson qui s'appelle Space Invaders de cet artiste qu'on aime bien qui s'appelle Pornophonique. Et c'est issu de l'album 8-bit Lagerfeuer.
Take me home. Completely insane. can you take me home? Can you take me home? Can you take me home?
Voilà, c'était Pornophonique avec Space Invaders. Je vous propose de continuer l'émission et cette fois-ci d'attaquer une petite mauvaise nouvelle qu'on a appris récemment, et c'est vrai qu'il va donner un petit coup notamment au monde des doublages de films en français. Et c'est la voix de Bruce Willis et de Tom Cruise, la voix française qui vient de s'éteindre.
Ouais, l'acteur, le comédien, c'est Patrick Poivet. Alors c'est une voix reconnaissable forcément, parce qu'il a doublé quoi. Alors Bruce Willis, Tom Cruise, il a doublé Mickey Rourke aussi, ou Kyle MacLachlan. Enfin, c'est incroyable le nombre de voix qu'il a fait quoi. Et j'entendais une interview l'autre jour justement où il expliquait que il trouvait toujours sympa quand il allait au restaurant avec des amis et qu'il commandait. Il y avait plein de gens des tables autour qui se retournaient pour voir. Imagine, t'es au restaurant puis t'entends Bruce Willis ou Tom Cruise qui commandent à côté. Bah tu te retournes, même si tu sais que ça peut pas être eux parce qu'ils commandent en français quoi, mais ça peut être assez sympa. Et oui, il avait 72 ans si je dis pas de bêtises, donc assez jeune.
Moi c'est vrai que la voix de Bruce Willis est assez marquante.
Ouais, c'était un des comédiens les plus respectés quoi, toujours super abordable d'après tous les interviews, les gens qu'on connaît. Bah de toute façon, j'imagine que l'émission Quotidien du cinéma tous les samedis à 14h, si je ne sais pas, oui, 14h à 15h, lui a rendu hommage hier samedi et va continuer dans les semaines qui viennent.
C'est quoi pour vous le film de Bruce Willis qui vous a le plus marqué ou qui vous vient en tête comme ça?
Moi, c'est pas un film, moi je l'avais découvert dans la série bien sûr, Clair de Lune. Oui, je pense que c'était un de ses premiers rôles, ouais.
De mon côté, la voix de Bruce Willis que j'ai reconnue, c'est plutôt dans Serious Sam, pas dans les films, plutôt dans les jeux vidéo Serious Sam, où il utilisait la voix française, justement de Bruce Willis, pour avoir la traduction française de ce jeu.
Ce qui devait être sympa dans l'immersion, hein, puisque le Bruce Willis pourrait tourner le film de Serious Sam, hein, sans trop de problèmes. Hein.
On va dire que Bruce Willis, dans les films, est petit joueur par rapport à ce que Serious Sam peut être dans le jeu vidéo. Mais bon, c'est tentant.
Et moi, j'en profite, hein, puisque Dom sera très content qu'on cite ce film. C'est Cop Out, hein, le fameux film de Kevin Smith qu'il a fait avec Bruce Willis. Voilà.
Et... Ouais, mais est-ce qu'il... Je sais pas, parce que depuis ça fait un moment que je regarde plus les films en VR, en doublage. Donc ce film-là, je l'ai vu en version originale. Donc je sais pas, je pense que... Enfin, je m'imagine que dans la VF, c'est toujours Patrick Poivet qui doublait Bruce Willis. Mais...
Et comment ça va se passer maintenant? Que ça peut être difficile de regarder les nouveaux films de Bruce Willis ou de Tom Cruise?
Ah bah, il tourne plus, hein. C'est bon, il n'y a plus de voix française, il peut plus tourner.
C'est pas faux.
Ça a mis fin à la carrière de Bruce Willis en même temps. C'est dommage.
Ou pas.
Ou pas, ouais.
On va dire ou pas. De toute façon, les derniers films, que ce soit en VO ou en VF, je sais même pas si je les ai vus. Je ne suis pas certain.
Alors, on reste un peu dans l'univers. Alors non, pas cette fois-ci du cinéma. On va parler de séries d'animation. C'est The Looney Tunes.
Hé, une petite minute. Et quoi de neuf, docteur? Quoi de neuf? ma nouvelle collection vidéo. Me voici dans de nouvelles aventures, avec aussi tous mes amis. La Fidoc.
Rien n'est impossible, la cœur vaillant. Enfin, c'est peut-être le contraire, mais...
Titi et Gros Mimet.
Oh, c'est pas vrai, c'est pas moi. Il est là, ton cadeau.
Oh, nom d'un chat, nom d'un chat. Tu parles d'un cadeau.
Speedy Gonzalez.
Je t'ai cherché à manger.
Oh, yeah. Arrive.
Porky Pig.
Allô, la police, je vous appelle pour signaler un fou dangereux qui est chez moi. Il est juste là, dans la pièce à côté.
Et Pépé le putois.
Ce n'est pas une femme, c'est un tourbillon. L'amour lui fait tourner la tête.
C'est The Looney Tunes qui apparemment va avoir droit à son petit remake ou en tout cas est remis au goût du jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va le disposer en VOD?
Ce qui se passe, c'est que la plupart des Looney Tunes, enfin les versions françaises d'origine des Looney Tunes, les dessins animés qu'on regardait quand on était petit, quoi, avec Daffy Duck et compagnie, avaient des doubleurs. C'était difficile de trouver les anciennes versions OVS en bonne qualité. On peut retrouver les versions originales. Tu peux les trouver en HD, donc en Blu-ray, en DVD, c'est ressorti. Mais soit avec des nouvelles voix françaises, soit avec les voix originales américaines. Et il y a des fous qui aiment bien les doubleurs français. C'est vrai que en général, c'était assez bien fait. Qui s'amuse à faire ce qu'on appelle du repack, c'est-à-dire que tu prends l'image de bonne qualité et tu colles dessus le son que tu as récupéré. Alors, si possible de bonne qualité, en général, ça vient de VHS ou d'enregistrement personnel, etc. Et tu repack donc avec un logiciel, tu recolles le son français dessus et tu les ressors donc au format vidéo. C'est pas vraiment illégal. C'est du travail de fan.
C'est pas illégal si tu le regardes chez toi.
Là, c'est quelqu'un qui s'appelle Carmelo Mike, qui est un fan absolu de vieux trucs comme ça, de dessins animés, des classiques et compagnie, qui a commencé en 2014 un travail de malade. C'est un gros projet, il a repris parce qu'il y a des dizaines d'épisodes, hein, et qui a repris les VF d'origine, donc des Looney Tunes, et qui les a recollés sur des épisodes en bonne qualité vidéo. Comme ça, tu as le top de la qualité, t'es pas obligé de te retaper des vieilles. Enfin, si t'as une télé 4K, ça fait un peu bizarre de regarder un dessin animé qui est en basse qualité. Enfin, alors, parce qu'on trouvait de la qualité normale avant, mais avec un son à peu près potable. Ça reste du dessin animé, donc ça va. En tout, il y a 571 épisodes répartis sur 25 volumes. Donc, c'est sur son blog, le blog de Carmelo Mike, .blogspot.com. C'est ce qu'il appelle le projet Looney Tunes. Et il y a plein de gens. Il a demandé de l'aide à plein de gens, puisqu'il y a des gens, il n'avait pas tout, lui. Il a récupéré des VHS de certains, il a récupéré des copies de d'autres personnes, etc., qui ont participé, qui ont alimenté son projet. Et là, c'est terminé. Donc, sur son blog, on peut télécharger. Alors, tout est expliqué. Faut télécharger sur des sites spéciaux de upload les projets pour les décompresser. C'est au format vidéo. C'est pas disponible en DVD ou quoi que ce soit. Hein.
Alors, moi, en lisant les news à propos de Looney Tunes, je voyais qu'on parlait un peu de censure à un moment.
Ah oui.
Et alors, je me demandais, est-ce que c'est parce que c'est pas autorisé de diffuser les Looney Tunes, donc forcément au bout d'un moment sa plateforme risque de fermer pour droit d'auteur, ou
il s'engage à les retirer, en fait. C'est-à-dire que il fait pas d'argent dessus, c'est pas une question d'argent du tout, c'est vraiment un travail de fan, hein. C'est presque un hommage, on va dire, et il s'engage, si jamais il y a un éditeur qui ressort les Looney Tunes en bonne qualité vidéo avec les sons, avec les VF, à supprimer toutes ces vidéos, enfin à plus les distribuer, quoi. Donc c'est vraiment parce que c'est pas disponible en VF. Là, tu veux montrer les Looney Tunes à tes gamins, à tes enfants maintenant, bah t'auras soit des voix pourries, soit des voix anglaises, soit de la vidéo de très basse qualité. Donc
alors, est-ce que tu penses qu'il y a une loi comme ça qui dit si le contenu n'est pas disponible dans cette version, il est du coup libre de droit d'auteur?
On va dire qu'il y a une tolérance, qu'il y a une espèce d'entente. C'est un petit peu ce qui se passe aussi dans le monde du ce qu'on appelle le scan pour le manga ou les comics. Il y a des gens, quand un manga sort au Japon, il faut un certain temps pour qu'il soit traduit, retravaillé et sorti en français ou en anglais. Donc il y a des gens qui font ça, des amateurs qui sont fans. Dès qu'il y a des mangas qui sortent, ils récupèrent les versions brutes, ils les traduisent à leur façon.
Ils enlèvent ce qu'il y a dans les bulles et ils réécrivent.
Et voilà, ils réécrivent, ils traduisent à peu près, souvent ça peut être plus ou moins bien fait. Il y a plein d'équipes qui travaillent là-dessus, que ce soit des mangas en papier ou en dessin animé. Ils font pas le doublage, bien sûr, mais ils font des sous-titres, par exemple. C'est un travail... La plupart du temps, dès qu'il y a un éditeur français qui prend le manga et que le manga est disponible, les gens qui font ça, les fansubbers et compagnie, suppriment leur... pas leur site, mais ils suppriment leur projet, etc. Ils disent aux gens, bah, arrêtez de télécharger, allez acheter le manga, allez acheter le DVD, etc. Maintenant que c'est disponible, vous n'avez plus besoin de nous. C'est vraiment pour les fans qui ont marre, qui peuvent pas attendre, quoi. Quand le nouvel épisode de série est disponible, ils le voient tout de suite. Dans le monde des séries, ça évolue, parce que maintenant, prends Game of Thrones, par exemple. Game of Thrones est pratiquement disponible en anglais, enfin en version originale et dans toutes les langues du monde, pratiquement en même temps. Parce que, mais maintenant, pour la traduction d'un épisode d'une série, ça peut aller très vite. Certaines séries, le lendemain, tu peux avoir l'épisode en France et un épisode officiel sur une chaîne française doublé, c'est assez costaud, ou au moins sous-titré.
En même temps, ça te permet d'avoir une publicité à peu près gratuite, vu que c'est fait par les fans, que ce soit pour une série, un manga, comme tu disais. Ça se passe aussi pour les jeux de plateau, où tu as les jeux de plateau, maintenant, beaucoup de jeux japonais, ou de allemands, ou de américains, etc., qui sont traduits par des fans, en attendant qu'un éditeur européen ou français prenne les droits et te fasse une version francisée. T'as au moins les fans qui puissent y jouer, ne serait-ce qu'un petit prototype francisé, et derrière ça te donne des précos pour le prochain éditeur qui te mettra ça sur le marché. Donc dans tous les cas c'est gagnant-gagnant. Après il faut vraiment que les deux parties soient équitables et qu'effectivement la personne retire son lien du texte pour qu'après tu ne puisses plus l'avoir quand la commercialisation est faite.
Oui, mais c'est pas...
Tu parlais, François, de la censure dans les Looney Tunes. Il y a une autre actualité en ce moment. C'est que, on entend parler beaucoup de ce qui se passe au cinéma avec la case.
J'allais venir.
Autant n'emporte le vent. Merci. Autant n'emporte le vent qu'il n'a pas été censuré. Il était retiré temporairement en attendant de le remettre à jour. Et il s'est passé la même chose avec les Looney Tunes, les cartoons, puisque, alors c'est pas forcément pour des questions de racisme, même s'il y a des dossiers là-dessus. C'est que, par exemple, il y a un des personnages les plus célèbres des Looney Tunes qui est Elmer Fudd, le chasseur.
Et qui a un gros fusil.
Qui a un gros fusil. Et qui n'hésitait pas à s'en servir, en plus, on va dire que les armes à feu dans les dessins animés, c'était courant, quoi. Qu'un personnage se retrouve criblé de balles, où on pouvait même voir à travers, ou se prennent des bâtons dynamite et explosent. Ça, par contre, je crois que la dynamite, ça va rester. Mais le pauvre chasseur n'aura pas son fusil. Enfin, je crois qu'il va même plus être chasseur, il va être, je sais pas s'il ne pourrait même pas être pêcheur parce qu'il faut protéger les poissons aussi. Je ne sais pas ce qu'il va devenir. Il va courir après les animaux avec une faux. Ce qui est pas beaucoup plus gay, on va dire.
Oh, peut-être qu'il sera agriculteur bio, écoute.
C'est la représentation de la violence des dessins animés, c'est pas évident. J'ai...
Ouais, mais c'est les Looney Tunes, c'est ça, c'est de la violence complètement burlesque et qui est, tu vois une dynamite qui explose, tu vois la personne qui est encore debout, enfin le personnage qui est encore debout, tout noir avec des gros yeux blancs qui font « mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Si tu retires ça à ces dessins animés, tu retires l'esprit de Looney Tunes.
Mais il y a bien plus longtemps, on parle des plus anciens dessins animés, que ce soit les collections, les Merry Melodies ou les Looney Tunes, donc les vieux dessins animés, qui datent entre 1931 et 1944 à peu près. Il y a ce qu'on appelle les 11 censurés. C'est 11 dessins animés, moi je me rappelle en avoir vu quand j'étais petit, qui racontent certaines histoires où on voit par exemple des représentations d'esclaves, etc., ou des représentations d'événements religieux, et il y avait de la violence dans ces trucs, il y avait des blagues un peu racistes, mais avec des stéréotypes sur les noirs. Alors à l'époque, moi je me suis laissé avoir vu à la télé ces trucs-là, effectivement, t'avais des noirs qui avaient un accent un peu bizarre, etc. Et ceux-là, ils ont été, un peu, c'est pratiquement impossible de les retrouver, à part par des moyens détournés, quoi. C'est des trucs qui ont été vraiment censurés, coupés, quoi, qui ont été supprimés. Que tu ne retrouves plus, c'est à moins d'avoir des archives de collections VHS et de DVD.
Mais personnellement, est-ce que c'est pas une grosse erreur d'enlever justement toute référence à ça, et du coup, c'est quoi le but de faire comme si ça n'avait jamais existé? Au contraire,
il faudrait terme à la mode, c'est recontextualiser.
Alors ici, on parle des films, on pourrait très bien parler des statues. Est-ce qu'il faudrait pas mieux laisser ça et justement mettre en dessous un contexte qu'elle est peut-être alertée sur les dangers, sur ce cas-là du racisme ou sur les dangers d'utiliser un revolver en tirant plusieurs fois sur un lapin, si par exemple. Mais de là à tout retirer,
c'est ce qui avait été fait. Ouais, c'est ce qui avait été fait sur Autant n'emporte le vent, où justement ils avaient remis un petit panneau pour une petite image pour recontextualiser le film et la scène du film. Et après, tu as deux possibilités. Tu as la possibilité de on remet au goût du jour tout ce qui est consensuel et donc on retire des choses donc dit censure ou non suivant les personnes, mais aussi ça veut dire que derrière tu amputes l'histoire de l'œuvre et donc tout le passé. Et il y en a certains qui te diront que supprimer le passé, c'est renouveler les erreurs une nouvelle fois, de les recommencer plus tard. Donc le mieux, ce serait justement de expliquer pourquoi ça maintenant, ça ne peut plus passer sur les ondes ou sur les images, et justement qu'on puisse éduquer les personnes en disant bah avant c'était comme ça, maintenant on fait comme ça. Si tu comprends, tu peux évoluer. Quoi.
Mais alors bon, justement, tu parles.
Même chose avec
j'allais venir.
Incroyable,
quelle connexion.
Ah oui.
Notamment le premier album de Tintin. Alors ça doit même être le deuxième, puisque maintenant on considère Tintin au pays des Soviets. Mais c'est peut-être. Mais c'est pareil, bah, pour les Soviets, c'est pas forcément très gentil. Et Tintin en Amérique, écoute. Et Tintin, le Lotus Bleu. Bah, je pense que on pourrait sortir de la vente tous ces bouquins. Ou justement, est-ce qu'il faudrait pas.
On attaque Hergé là, mais je suis allé visiter le musée Hergé il y a quelques années, qui est pas très loin d'ici, enfin pas très loin de ce Gabidi, qui est à Louvain-la-Neuve. Le musée est magnifique, le bâtiment. C'est un musée Hergé, entièrement consacré à Hergé. Tout, sa vie, son enfance, etc. Mais il manque pas mal de choses. Ses amitiés avec, les parties un petit peu plus extrêmes de l'histoire. Il n'y a aucune allusion aux femmes, etc. Enfin, il y a plein de choses qui manquent dans ces expositions. Ça a été un petit peu censuré parce que c'est la famille qui est derrière ça. Donc.
Je pense qu'au contraire, ça devrait être dedans. Et justement, pour expliquer non pas condamner ces albums, mais les...
Le truc, c'est que c'est la famille, c'est ses héritiers, ses descendants qui gèrent son magot et le musée.
Je ne veux pas non plus ternir une image de potentielle vente de goodies et autres derrière pour encore un certain temps. Mais en même temps, tu parles de BD, il faut savoir que ce type de entre guillemets, censure avait été commencé ne serait-ce qu'avec les cigarettes et le fait de ne plus mettre de cigarettes à l'écran ni en image au niveau BD, ne serait-ce que par rapport à Lucky Luke. Maintenant, il mâchouille un brin d'herbe alors qu'avant il avait toujours sa clope au bec.
Oui, ça à la limite, c'est un petit détail, c'est vrai que ça change rien, mais est-ce que ça le rendait sympathique?
Ah oui, mais à l'époque, tu créais un personnage et ce personnage avait dû être amputé d'une partie de son caractère parce que c'était le bad guys un peu sombre qui avait sa clope au bec, qui tire plus rapide que son ombre, etc. Maintenant, tu le vois mordiller.
Je pense que
ça a donné envie. Est-ce que ça a donné envie de fumer à des générations d'enfants?
Je pense que oui, Dominique, parce que ce qui se passe, c'est que allez, ça vous pouvez le vérifier dans tous les films. Mais si vous voulez arrêter de fumer, c'est quelque chose à garder en tête. Regardez dans un film lorsque vous avez une situation un peu de stress, que va faire la personne? Directement, elle va sortir une cigarette et faire. C'est un peu comme cet esprit « Ah, je me sens tout de suite un peu mieux ». Et ça, c'est fait dans beaucoup de films. Donc forcément, là, ça crée de manière inconsciente une relation entre le bien-être et la cigarette. Donc, et maintenant, il y a beaucoup de gens, vous allez voir, au travail ou autre, un petit coup de stress, « Ah, il faut que j'aille fumer ma clope ». Et ils vont sortir. Et ça, je pense que ça a été justement préparé par les industries du tabac, et notamment peut-être. Alors, on parle de conspiration ou pas, hein, mais peut-être que dans certains films, si on offrait plusieurs paquets de clopes à l'entrée du studio, peut-être que ça allait servir.
On pourrait faire une émission entière là-dessus, mais c'est vrai qu'à une époque, quand tu faisais ton service militaire en France, dans le pactage qu'on te donnait à l'arrivée, t'avais deux paquets de cigarettes.
Bon, là, on parle de cigarettes, mais tu vois la série Mad Men, par exemple. Je l'ai vue il y a un ou deux ans. Ça parle dans les années 60 à New York. Là-bas, ça clopait sur clope. T'étais dans la voiture, tu clopais. Dans le resto, tu clopes. Enfin, t'as pas un plan séquence ou quoi que ce soit avec une clope. Voilà. Et ce qui fait que à la fin, j'avais l'impression d'avoir un cendrier dans la bouche alors que je fume pas, quoi. T'es fortement pris par les images.
Ou t'as pas bien regardé ce que tu mangeais.
Voilà.
Je crois qu'ils devraient refaire le film Dune en supprimant l'épice. C'est pareil. Hein.
Ouais, c'est de la drogue. Hein. Quand tu vois leur tête après.
Ça te donne envie de consommer des drogues.
Mais heureusement, en France, on ne se drogue pas.
Voilà.
Voilà. Alors, on partait de Looney Tunes en passant par Tintin.
On est parti loin.
Finir avec la cigarette et on va retomber sur nos pieds avec de la K-pop, forcément.
Ouais, de la musique.
Ah là, il va falloir de la drogue pour subir. Hein. Pas supporter.
Et c'est vrai qu'on avait déjà passé un album de K-pop dans Heureusement en France, et cette fois-ci, c'est à l'occasion, hein, on en parlait tout à l'heure, des lives qui sont réalisés maintenant sans public et ensuite diffusés en streaming. C'est le groupe BTS qui a fait un événement et payant, hein, on tient à le préciser.
C'est vrai qu'il y a pas mal de concerts qui sont gratuits, hein, un petit peu partout, mais des concerts payés pour assister à un concert sur ton ordinateur ou même ta télé, même s'il est de bonne qualité, sympa.
Bah, t'avais la différence entre justement les concerts gratuits qui étaient juste pour aider par rapport au confinement d'il y a deux mois. Maintenant, t'as juste une distanciation sociale à avoir et donc forcément de pouvoir continuer tes concerts, mais comme tu n'aides plus les personnes pour le confinement, bah, tu les fais payer un petit peu pour dire si tu veux vraiment profiter du concert.
Et puis c'est vrai que ce genre de groupe, le groupe de K-pop, etc., ils ont des fans par milliers, voire millions, et des fans qui dépensent. Ils ne se contentent pas de les suivre ou d'acheter. Ils dépensent, ils achètent, ils font des kilomètres, ils font la queue pendant des heures ou des jours pour assister à un concert de 5 minutes. Quoi. C'est incroyable.
Et là, ils n'ont pas eu besoin de faire la queue, ils ont juste eu besoin de faire.
Peut-être qu'il y avait la queue pour
de faire chauffer la carte bancaire, peut-être. Mais ils ont pu se connecter directement. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, certaines salles de concert ont réouvert avec à l'intérieur donc, de la salle des traçages de 1 mètre carré avec une chaise au milieu.
Ça doit être très triste. J'ai vu ça.
Alors,
j'ai vu les vidéos.
Au début, je pensais que c'était un fake du style Groland avec les gens qui trémoussent sur leur chaise. Pas du tout. C'était une vraie salle de concert. Donc, je pense, est-ce qu'il faut vraiment y aller ou est-ce qu'il vaut mieux pas encore attendre encore un peu?
Je pense que c'est vraiment un truc de pour faire le buzz, etc. Plus pour dénoncer un petit peu le principe, parce que c'est vrai qu'il y a j'ai entendu des interviews que ce soit concert ou propriétaire de théâtre, qui disent, c'est sympa, mais on va pas réouvrir parce que ouvrir une salle un mètre de distance, ça veut pas juste dire que t'as personne dans les un ou deux sièges à ta droite et à ta gauche. Ça veut dire que t'as personne derrière toi et devant toi. Donc, ça veut dire, c'est pas juste une personne sur deux, une personne sur trois. C'est une place sur 5 ou une place sur 10. Et bah, tu peux pas rentabiliser, hein. Enfin, c'est rien que le fait d'ouvrir, de faire venir des gens, des techniciens et d'allumer les lumières, ça va déjà t'en déficit, quoi.
Pour nous, c'est vraiment bien parce que tu peux voir enfin des groupes qui passent ou découvrir des groupes qui vont passer. Et là, tu verras vraiment bien la scène. Donc, autant profiter en tant que client. C'est le meilleur des mots.
Alors, c'est pas encore disponible en VR, mais j'aimerais bien que certains groupes permettent cette solution, même si au bout de 15 minutes, on en aurait sûrement marre.
Comment tu veux faire ton pogo?
Avec un casque VR,
ce que j'ai vu par contre, c'est un groupe qui jouait, qui s'était mis dans une espèce de grosse bulle en plastique. Donc chacun des membres du groupe était dans une immense bulle en plastique, et les gens du public aussi. Donc les gens étaient groupés par famille, et chaque famille ou chaque couple avait été dans une bulle en plastique, et ils pouvaient applaudir et danser à l'intérieur de la bulle en plastique. Et c'était spectaculaire à voir. Bon, c'est pareil, c'était plus pour le buzz, mais ça, pourquoi pas.
Mais là c'est clair qu'au bout de même pas le premier morceau n'a pas le temps de commencer que tout le monde fait un pogo. T'en profites, tu t'amuses, quoi. Le groupe, oui. Tu t'en fous, quoi.
Puis au moins tu te fais, si tu vas pas vomir, tu vas pas te faire vomir dessus par l'alcool. Ouais.
Si tu fais tomber tes lunettes à cause de ça, t'es sûr de les retrouver et pas casser, quoi.
Oh, t'es sûr de les retrouver.
Ouais. Alors, et donc, comment ça se passe BTS, là.
Comment ça se passe? Eh ben, donc, c'est filmé avec une salle vide où on modélise éventuellement du public. Et derrière, il y a un grand écran derrière le groupe où on peut voir en petites cases les gens qui regardent et qui ont allumé leur webcam. Et je ne sais pas si vous avez vu TF1, puisque The Voice a repris cette magnifique émission de TF1. Et derrière, on pouvait voir des gens qui faisaient des applaudissements ou qui donnaient des pouces. Sauf qu'on a remarqué que c'était toujours les mêmes vidéos qui tournaient en boucle.
Ah, je vois.
Donc ça perd. Au bout d'un moment, ça rendait extrêmement ridicule de pas avoir poussé ça jusqu'à faire du direct avec les internautes. Enfin, c'est dommage. Alors, ça n'a pas été le cas pour BTS. Là, il y avait plus de 750 000 téléspectateurs qui étaient derrière leur écran en direct.
C'était dimanche, dimanche 14 juin, donc c'était dimanche dernier, et le prix d'entrée était à peu près 26 $ pour une heure et demie de show. Donc, ça va, c'est déjà pas mal. et ils étaient tout seuls dans une presque une salle vide, quoi, effectivement, comme tu le dis, avec des écrans derrière, et ils se contentaient pas de diffuser des réactions en direct de leur public, mais ils interagissaient, c'est-à-dire que les gens pouvaient envoyer des messages, et les chanteurs, des danseurs, les membres du groupe, on va dire, pouvaient interagir et répondaient aux questions et aux commentaires, c'est assez puissant.
Donc, tu pouvais même envoyer ta petite culotte par la poste et ensuite quelqu'un la jetait sur scène. C'était vachement bien fait. Donc $26 pour assister quand même à ce show qui a été diffusé dans plus de 107 pays. Alors forcément, vous doutez bien qu'en Corée, ça a bien fonctionné également. Et peut-être qu'on va s'écouter du BTS à un moment, hein. Moi, quelqu'un veut rajouter quelque chose?
Bah, là, on parle d'un concert. Ouais. On parle d'un concert qui a été filmé, mais comme on sait qu'en Corée, justement, ou dans d'autres pays, en Chine ou autre, sûrement en France, il y a des fans de ce groupe, mais aussi des fans d'un des chanteurs du groupe ou d'un des faux chanteurs du groupe, je sais pas comment on peut les appeler, et qui aiment le groupe que pour cette personne. Bon, pour moi, ils se ressemblent tous, hein, ils ont tous la coupe Playmobil et compagnie, mais et donc là, ils ont prévu de filmer le concert, mais aussi de mettre des fancams où chaque membre du groupe a tout le temps sur lui, en plan très serré, une caméra. Et n'importe qui a payé son droit d'entrée pour regarder le concert peut dire « je veux que cette cam-là » et me faire tout le concert dessus. Donc forcément, ça a attiré énormément de fans. Ouais.
Ça, c'est vachement nouveau. C'est vrai que dans un concert normal, tu peux pas voir ça. Tu fais ton montage toi-même. C'est un peu ce qui se passe depuis plus en plus dans les matchs de football, par exemple, ou de sport en général. Mm-hmm. C'est-à-dire que sur un match de foot, tu as une quarantaine de caméras sur tous les angles. Et tu peux, si tu veux, toi, faire ton propre montage. Au lieu de laisser le monteur de l'émission de télé faire te montrer ce qu'il veut, tu peux dire, je vais suivre Neymar, par exemple, etc. Puis tu suis, même si le mec, il a pas le ballon, hein, mais tu peux même suivre, je sais pas, faire des, le coupeur de citron, je sais pas
quoi. Tu regardes le banc pendant 90 minutes.
Tu peux suivre l'arbitre, et tu ne suis que l'arbitre, tu ne vois que l'arbitre, parce que le foot, tu t'en fous, tu ne suis que l'arbitre, parce que tu le connais, c'est un pote à toi, ou je sais pas quoi.
Enfin, ah ouais, plus il est tout seul, les autres, ils sont 11 par équipe, lui, il est tout seul, il doit se faire chier, tu dis, je l'accompagne, quoi. Ouais, c'est bon.
Tu peux suivre que le ballon, ou rien, ou tu peux simplement regarder. Mais ça, c'est une nouvelle façon de visionner, on est de plus en plus de possibilités. Le fait de faire ton propre montage, de faire ta propre... Peut-être ça sera la même chose dans le jeu vidéo, c'est déjà un petit peu le cas, mais tu regarderas ta série, je sais pas, Game of Thrones, et tu pourras avoir un autre plan quand les séries seront complètement tournées en VR, en 3D compagnie, ou tu seras au cinéma, tu auras un casque, et tu pourras voir le film de l'angle que tu veux, ou même le revoir sous un autre angle, ou suivre un autre personnage, ou enfin ça peut être assez puissant.
Ça risque d'être difficile quand même de cacher les caméras sur des angles à 360.
Est-ce qu'il y aura encore des caméras? Il n'y aura plus de caméras, tout sera généré par des images de synthèse peut-être.
Ouais, puis maintenant t'as les caméras, c'est des têtes d'épingle, hein, donc tu peux les glisser n'importe déjà, où, il n'y a aucun souci.
Déjà, et puis tu as des systèmes d'intelligence artificielle qui sont capables, à partir ne serait-ce que d'une photo en 2D, de reconstituer ce que tu vois. Tu peux prendre une photo de quelqu'un, un portrait, et l'intelligence artificielle va reconstituer la photo comme si elle était vue derrière ou de côté. C'est assez puissant. Ça va être de plus en plus utilisé. Et c'est ce qui se passe aussi dans le sport. Ils seront capables, pas en direct, mais de remontrer une action, un coup franc, par exemple, qui va dans une lucarne. S'il n'y a que deux angles de caméra, avec ces deux angles de caméra et un logiciel 3D, ils sont capables de reconstituer en image de synthèse. Tu peux dire, l'action, le tir vu du point de vue du gardien. Et ça va être presque de qualité real life, on va dire.
Ou tu mets des puces GPS sur chaque joueur et après tu remodélises tout ça.
J'ai déjà le temps.
Et après, à la fin du match, tu montres le terrain et puis tu vois les traits de chaque joueur qui ont bougé. C'est un peu comme quand tu fais ta course en jogging et on voit ton trajet que tu as fait. Et tu vois quel joueur était une grosse feignasse pendant toute la partie, quoi. Pas sympa.
J'apprécie beaucoup le fait que vous essayez de retarder au maximum l'écoute de cette chanson de BTS.
Comme ça, on t'a laissé plus de temps pour fouiller dans ta collection d'albums de BTS pour trouver un morceau qui va bien coller.
Je suis sûr que t'hésites entre deux, que t'arrives pas à te décider.
Bah c'est ça, depuis tout à l'heure j'écoute et en fait je me rends compte. Alors ils sont combien dans BTS? Ils sont 7.
Ils sont 7, je crois, ouais.
Voilà, 7, on peut dire jeunes garçons, hein. Alors là, il danse sur une scène qui est extrêmement colorée et très flashy. C'est assez rigolo à voir. Et même moi, j'essaye de décaler un peu l'écoute de l'album. Je me rends compte qu'on est tous dans le même bateau actuellement. avant qu'on écoute, puisque j'ai choisi la musique, là, j'ai mis l'album dans la platine, on va s'écouter DNA.
On va partir en studio.
DNA du groupe BTS. Je vous laisse une dernière chance. Si vous avez une news qui se colle à la K-pop, c'est le moment. Avant qu'on termine l'émission et qu'on laisse la place à l'écho des gnous pour parler du logiciel libre.
Quel est le rapport entre le Texas et la K-pop ? Alors, comment on appelle un groupe ? Je sais pas, un boys band du Texas et de la T-pop ? Enfin, bref. En gros, il y a...
Un cowboy bebop ?
Ah non, insulte pas cowboy bebop, s'il te plaît.
La police de Dallas, donc au Texas, à fin mai, il y avait une manifestation dans le cadre du mouvement Black Lives Matter. Et malheureusement, il y a eu quelques dérives pendant cette manifestation et la police de Dallas a une application qui s'appelle iWatch Dallas, ça marche j'imagine dans d'autres villes, qui permet aux gens de signaler des événements, d'envoyer des images de, tu vois, quelqu'un qui fait une activité illégale, tu peux envoyer. Et donc la police de Texas a demandé à ses citoyens de lui envoyer des images de manifestation pour détecter d'éventuels suspects, mais comme les gens n'étaient pas folichons, enfin bref, enthousiastes à participer à aider la police, ils les ont trollés en envoyant des photos d'artistes de K-pop.
Tu veux dire qu'on n'aime pas la délation au Texas ? Ça me semble bizarre tout ça.
À savoir.
Mais.
Non, K-pop apparemment, parce que la police, l'application a dû fermer. La police, en raison de difficultés techniques, l'application sera temporairement fermée, parce qu'il ne reste plus que des milliers de photos d'artistes de K-pop ou de concerts, je ne sais quoi. Comme quoi, la K-pop, ça peut servir à quelque chose.
Après les DDoS attaques, on a les K-pop attaques. Peut-être à mettre au goût du jour en France. Hein, voilà. Dès que vous êtes en rage avec quelqu'un, vous lui envoyez plein de photos de K-pop sur son site ou autre. Je trouve que c'est une bonne idée, écoute. Et on va la soumettre d'ailleurs à BTS, hein, puisque c'est le groupe qu'on va essayer d'écouter, même si on s'approche terriblement de 19h. Ça sera avec la chanson DNA. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Heureusement en France. N'hésitez pas à nous rejoindre Facebook, Twitter, Instagram.
Quel est votre membre favori du groupe BTS ?
Voilà, ça nous intéresse tout particulièrement. Et nous avons également le site de Radio Campus pour écouter les podcasts de notre émission et de toutes les émissions de Radio Campus. Et anotherpodcast.fr pour retrouver exclusivement le contenu de Heureusement en France. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao !
À plus.
Get on. 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 Get 멈춤 날라 운명을 찾아낸 우리니까 후회하지 마라 baby 영원히 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 함께니까 걱정하지 마
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures.
Fin de la retransmission.
C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite.